Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France. Et parmi le public, je suis ravi d'accueillir notamment les premières du fameux lycée Pierre de Fermat de Toulouse, considéré comme le plus grand lycée d'ailleurs de Toulouse, pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec les phénomènes naturels de la critique. J'ai nommé Patricia Martin des petits matins du week-end de France Inter, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, Olivia de Lamberterie, Duel, Arnaud Vivian de Transfuge, de la revue Regard et surtout de la revue Charles pour parler précisément des phénomènes naturels de Jonathan Franzen, d'Écoute la ville tombée de Kate Tempest, de L'archipel du chien de Philippe Claudel, de La punition dans tous les sens du terme de Tar Benjelloun et de Sainte-Croix les vaches de Vincent Ravalec. Dans le courrier, eh bien, les avis sont très divergents. C'est le moins qu'on puisse dire sur 4, 3, 2, 1 de Paul Auster. Ça a paru chez Actes Sud. Marina Gauthier de Londres a dévoré les premières centaines de pages avec bonheur. Ensuite, le roman s'étire, se perd, certaines descriptions interminables plombent la lecture. Et je me suis fait violence pour finir 300 pages en moins, please. En revanche, Anne-Marie Montebello de Paris nous dit que 4-3-2-1 a été une lecture compulsive. Vos chroniqueurs du masque n'ont pas lu, évidemment, l'œuvre. C'est plus d'un demi-siècle de l'histoire des États-Unis que parcourt le roman. Un livre important qui fera date tant pour la démarche littéraire que pour le contenu historique et surtout pour l'émotion qui s'en dégage. Et puis un flot de messages courroucés à propos du ministère du bonheur suprême de l'Indienne Arundhati Roy, que je vais vous lire. Laurent Ribadeau-Dumas, mon cher masque, j'ai été profondément choqué par le traitement de ce livre. Côté critique, trouve le livre long et compliqué, c'est leur droit, mais ce n'était plus de la subjectivité, c'était du mépris et une méconnaissance totale de la culture indienne. Anne-Marie Gauthier précise qu'en Inde, il y a 18 langues officielles, dont l'hindi. Quant à l'ourdou, il s'agit de la langue officielle du Cachemire ainsi que du Pakistan. Faites-vous offrir l'Inde pour les nuls. Jean Robert juge que l'effort de l'éditeur, c'est Gallimard, pour offrir un glossaire à la fin du livre permet de comprendre cette mosaïque de langues. Je suis désolé pour les lecteurs potentiels que vous ayez pu écarter ce livre de vos conseils. Martine Marja trouve que les critiques montrent une fermeture d'esprit. Ça, c'est assez vrai. Concernant le roman d'Arundhati Roy, certes, il y a une complexité à laquelle nous ne sommes pas habitués, où se mêle réalisme social, surnaturel, spirituel, mais l'Inde est ainsi, Arnaud. Je suis fort déçu par votre attitude. Je prends la mouche et la plume, ajoute Pierre Grébouval.
L'Inde qui passait devant la France dans les puissances économiques.
Une bonne fois pour toutes, l'hindi est une langue, l'hindou un croyant, Arnaud. Et Olivia, je me désole du traitement fait à l'Inde lors des débats sur ce livre par vos critiques qui ont fait montre d'une triste ignorance vis-à-vis de cette culture millénaire. Un petit effort les masquer. Enfin, Monique Voisin-Roux me prie d'empêcher Arnaud Vivian de dire juste à tout bout de champ, 7 fois dans l'émission du 24 décembre, 2 fois seulement dans celle du 7 janvier. Et Jean-Claude, puis-je faire partie, nous dit Monique Voisin-Roux, de votre club pour la défense du point-virgule. Merci de vous disputer ainsi, c'est juste vivifiant de vous écouter. J'adore ce podcast qui me permet de vous avoir partout avec moi. C'est juste plus facile qu'avec les cassettes d'avant-guerre. Et on commence avec, si tu veux bien Arnaud, juste écoute la ville tomber traduit par Madeleine Nazalik, chez Rivage, chez le premier roman de la rappeuse, poétesse, dramaturge anglaise de 32 ans, Kate Tempest. Un roman d'ailleurs que les critiques ont situé quelque part, il y a de la place, hein, entre Dickens et Despentes, et où elle entrecroise des destins d'aujourd'hui. Il y a une danseuse serveuse reconvertie dans le massage érotique, un chômeur drogué et complotiste, et sa sœur, qui est lesbienne et dileuse, ces deux derniers se jalousant, la même serveuse du début, un triangle amoureux autour duquel gravitent d'autres personnages, avec, nous dit Kate Tempest, un mot d'ordre, je voulais faire du livre un plaidoyer pour l'utopie et la rédemption, célébrer ce qu'il peut y avoir de grandiose et même de divin dans le quotidien de cette génération abîmée. Arnaud ?
Oui, alors j'ai pris un grand coup de vieux quand je suis tombé sur cette phrase que je connais par cœur.
Pourquoi un grand coup de vieux ?
Ben parce que j'ai lu cette phrase, le DJ s'engouffre dans un bip-corps anonyme. Alors là, évidemment, le DJ s'engouffre dans un blipcore anonyme. Je me suis dit, alors je suis allé regarder blipcore sur Internet.
Ouais.
Qui sont, alors c'était très très difficile comme recherche, mais il semblerait que le blipcore, dont je n'avais strictement jamais entendu parler, et pourtant j'estime toucher un tout petit peu ma bille en musique, le blipcore serait un genre proche du vomitcore. Alors c'est, le vomitcore est plus parlant, hein.
Le vomitcore.
Mais une fois que j'ai su,
le vomitcore.
Ben c'est un genre musical assez l'idée est
le
assez claire.
Le dégueulis de corps,
le vomitcore. Non, corps, c'est C-O-R-E.
Oui, mais même.
Ça veut dire
mais, mais vomi, j'aime pas.
Hardcore.
Comme dans hardcore, mais là c'est vomitcore. Et donc là c'est, mais c'est pas du vomitcore, c'est du blipcore. Le blipcore, donc voilà. Mais en même temps, je me disais, ok, c'est un genre musical.
Tu vas pas nous faire toute l'émission.
Comment
sur
le DJ s'engouffre dans un genre musical qui plus est anonyme. Donc, si vous voulez, cette phrase m'a interloqué, d'autant que juste avant, quelques pages précédemment, cette jeune romancière racontait l'histoire d'un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale qui est pris dans la poche de Dunkerque. Et qu'elle raconte ça, disons, un peu à la manière d'un contemporain de Churchill, voire de Churchill lui-même. Donc, si vous voulez, le choc, là, m'a fait poser la question, est-ce qu'ils sont plusieurs à écrire ce livre ? Est-ce qu'ils sont mis à plusieurs ? Hein ? Ou est-ce que cette Kate Tempest est atteinte d'une schizophrénie grave qui la ferait écrire comme une jeune rappeuse et en même temps comme sa grand-mère ? C'est une question. Et franchement,
je ne sais toujours pas si ça t'a plu ou pas.
Non,
hein.
Mais alors, c'est-à-dire
on
que
a une idée,
le questionnement que m'a imposé ce livre est plus intéressant que le livre lui-même, qui est une espèce de rogaton de choses mille fois vues, où la fille décrit les gens avec leur paire de baskets que plus personne n'ose faire depuis 1992 à peu près, hein, quand Bret Easton Ellis l'a fait une fois et qu'on a dit ok, on arrête avec les marques. Et donc c'est franchement, c'est quand on dit, j'imagine que les critiques anglais présentent Gaël Faye comme le Jean-Paul Sartre français, et ainsi Kate Tempest et Charles Dickens, je vois très bien les articles anglais sur Gaël Faye, quoi. On est là, si vous voulez, dans ce qui me semble être vraiment le fétichisme du produit culturel, alors, au sens où Karl Marx en parle dans le Capital, c'est le fétichisme de la marchandise, là.
Jean-Claude,
ça n'a aucun
Jean-Claude a l'air très mécontent.
Oh, je suis même pas mécontent, je suis accablé, quoi. C'est d'entrée, quoi. D'entrée, Arnaud commence tout de suite comme ça. C'est un livre formidable. C'est un livre absolument formidable. Alors, la réponse à ta question, elle est peut-être qu'elle s'écrit.
Et le blipcore, là, ça t'a pas gêné, toi.
J'y viens.
Les spécialistes.
J'y viens au blipcore, je vais répondre à ta question, puisque tu as posé une question à l'Assemblée. Il est possible qu'elle soit prise les doigts dans la prise, parce que c'est un roman totalement électrique. C'est sans arrêt survolté. C'est le portrait d'une génération.
Et l'histoire du soldat dans la poche de Dunkerque,
oui,
c'est les doigts dans la prise aussi.
C'est ce que je te dis. Elle a pris les doigts dans la prise. Et puis, il n'est pas interdit dans une vie, dans un esprit, chez un écrivain, de mélanger les époques. C'est pas interdit. Il n'est pas interdit dans ta vie de penser à Dunkerque et de penser au Sex Pistols. C'est tout à fait possible, ça. Donc, tu ne vas pas le lui interdire. Et tu vas pas le récuser le droit
de le faire. Le problème, c'est pas de lui interdire, c'est d'avoir une opinion de lecteur.
Et de le faire de façon vraiment virtuose.
Il a écrit, hein, ça y est, je vais pas l'interdire.
Elle parle d'une génération.
Qu'il n'y a pas de commission de censure.
Après, c'est pas un roman. On demande de lire, je lis quand même.
C'est pas un roman sur les baskets. C'est pas un roman sur les baskets.
Il y a des mots. Quoi. J'ai lu les mots.
C'est un roman sur la solitude urbaine d'une génération qui est post-consommation. Ouais. On parle de post-moderne. Ça, c'est la post-consommation, c'est-à-dire quand on est au-delà de la saturation. C'est un portrait tout à fait fascinant de quatre personnages dans une ville cassée. Dans un pays
dont trois principaux quand même.
Oui,
c'est le trio qui est
trois principaux
plus important. Bon.
On est sans arrêt dans cette respiration de cette ville suractive, viciée. L'air est chargé d'électricité comme son style. Elle a des trouvailles formidables. Tu rentres parfois justement avec des phrases qui sont totalement inattendues et qui te transportent. C'est des vagues de poésie qui viennent te surprendre tout le temps. Alors oui, sans doute, le Bipcore, oui, c'est bien que tu te sois arrêté là-dessus. Le livre fait que 500 pages. Donc en effet, on peut rester bloqué sur cette histoire de Bipcore, aller chercher dans l'encyclopédie universaliste ce que ça veut dire. Mais c'est un roman, en tout cas, très excitant, qui vous saisit, ça pulse tout le temps. Et c'est une vraie.
Je connaissais pas
révélation.
Ce côté slammer de Jean-Claude.
Oui, mais il suffit de me lancer, hein.
Mais oui,
il
c'est bien.
De me lancer,
Olivia.
Alors d'abord, moi, j'ai été écouter la chanteuse. Hein. J'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé ça merveilleux. Je trouve qu'elle a un phrasé. Je ne connais rien au rap, au slam. Et j'ai été vraiment séduite par la voix de la fille et sa diction. J'ai écouté également à la Maison de la Poésie. Elle lisait des extraits de son livre. C'est très envoûtant, c'est très beau. J'ai reçu aussi un poème qui lui a valu le prix, la distinction de Ted Hughes.
Alors je crois qu'elle est là. Il s'appelle ce livre Les Nouveaux Anciens.
Les Nouveaux Anciens aux éditions de l'Arche.
Voilà, ça a paru en octobre à l'Arche.
On me l'avait envoyé.
Entre slam, rap et poésie urbaine.
Oui, mais je trouve qu'on retrouvait exactement la chanteuse. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé le livre. Je trouve qu'il y a 30 pages qui sont très belles. La rencontre dans la boîte de nuit des deux héroïnes. Il y a vraiment, je trouve, un côté Virginie Despentes, une sorte de massacre de la société, de la gentrification, et un truc assez violent qui correspond tout à fait à la chanson. Et puis après, le système romanesque, je trouve, ne correspond pas du tout à la langue de cette fille. Et je trouve que le roman est très raté, que tout d'un coup, on tombe dans un roman pas mauvais, mais avec des dialogues assez mauvais, assez plats, avec des propos souvent assez convenus. Et je trouve qu'elle se prend les pieds dans le tapis. C'est visiblement une histoire qu'elle mâchouille depuis longtemps, parce que l'histoire est la même. Oui, parce que l'histoire est la même dans le poème, et l'histoire est la même dans l'album. Et là, la version romanesque qu'elle en donne...
C'est peut-être un concept, finalement.
Alors que c'est vraiment très beau dans la poésie, et je vous conseille de lire le livre de l'Arche, et que c'est très beau dans l'album, ça ne marche pas du tout en roman.
Je vous rappelle que ce livre a fait la une de tous les supplément littéraire.
Aucun n'a expliqué ce qu'était le Bipcore.
Contester le « ça ne marche pas du tout ». Eh bien, ça marche tout à fait.
Ben oui. C'est une couche de contre, une couche de pour.
Alors, Patricia.
Une couche de contre, donc là, j'en fais la couche de pour.
T'es pour, toi ?
Ah ben oui. Et s'il y a des défauts, ben tant mieux. Oui, c'est une jeune romancière.
Ah bah, oui. Bon, voilà. C'est vrai que
32 ans.
Oui, d'accord. Oui, pas si jeune que ça. C'est quand même une jeune romancière. Moi, je trouve que c'est d'abord, il y a un côté, ces jeunes, ils ont une transcendance, quelque chose de très fort de ce côté-là. Je trouve que il y a une langue, il y a des pulsations, il y a un rythme. Et d'ailleurs, là, il faut vraiment saluer la traduction, parce que ça n'a pas dû être évident. C'est presque une réécriture.
On redonne son nom, Madeleine Nazalik.
Il y a quelque chose à la fois, c'est à la fois très doux et c'est frontal. Il y a un mélange entre les personnages, il y a un mélange de rugosité mais de grande sensualité.
C'est très rap,
c'est
toi,
très physique. Hein, je suis très rap. C'est très physique. Les personnages, ce que vivent les personnages passe d'abord par le physique. Moi, je trouve qu'on est pris tout de suite. Il y a beaucoup d'amour en dépit des nombreux couacs, en dépit des pères qui sont absents, des mères qui sont insuffisantes. Enfin, ce qu'elle raconte n'est pas très gai. Mais je trouve que là-dedans, il y a une énergie, hein, elle est porteuse d'espoir. Et d'ailleurs, elle a un physique absolument pas possible. On dirait à la fois, elle a un côté comme ça, frondeur et même un peu masculin, même. Enfin bon, je pense que d'ailleurs,
mais
elle ne se cache pas d'être.
Mais depuis quand on juge les écrivains sur leur physique?
Et en même temps,
ça,
c'est une
madone
de Botticelli. Mais non, mais en même temps, elle a un côté Janis Joplin. Enfin, il y a quelque chose de ça chez elle, mais y compris dans son écriture. Mais Arnaud, ne sois pas consterné par ce que je dis, sous prétexte que tu n'es pas d'accord.
Je trouve que justement, ce qu'elle réussit dans le rap ne transparaît pas dans le livre.
Pour appuyer ce que dit.
Bon, allez, on va se calmer, on va passer à un autre livre.
J'ai été très déçue. Hein.
Pour appuyer ce que dit Patricia, moi, ça m'a fait penser à la littérature comme de la boxe. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de jambes, il y a des uppercuts. Alors, de temps en temps, elle réussit pas ses coups.
Oui,
de temps en temps, elle en prend.
Elle
en prend de la part de certains lecteurs comme vous. Mais elle remonte, elle y va.
Donc... C'était la morale, donc, du soir. À propos d'écoute, la ville tombée, signée, donc. Kate Tempest, Phénomène naturel, un volume de 700 pages. 700 pages. Traduit par Olivier de Paris aux éditions de l'Olivier. Ce n'est pas le nouveau, je le dis d'emblée, mais le deuxième roman de Jonathan Franzen qui a paru aux États-Unis en 1992. Il avait 33 ans, bien avant donc le livre qui l'a rendu célèbre, qui est Les Corrections. Chef-d'œuvre, je vous le dis, et le plus récent, Freedom, est dans Phénomène naturel, la Terre tremble. Alors il faut expliquer que lors d'une première secousse près de Boston, une grand-mère New Age meurt d'une mauvaise chute et laisse un pactole de 22 millions de dollars. La famille Hollande qui en hérite va alors se déchirer, et dans la famille, il y a Louis qui travaille dans une station de radio.
Mais Hollande sans eux, hein.
Oui, sans eux, oui. Est-ce qu'il fallait vraiment le préciser? Et que ce Louis...
Ça devient plus marrant, remarque. Oui, tu vois, commence à lire en pensant à Hollande.
Et qui vit, ce Louis, un grand amour avec une sismologue de Harvard, convaincue que si la Terre tremble, c'est en raison d'un centre voisin de traitement de déchets chimiques enfoui dans un ancien puits de forage. C'est un polar écolo-punk où on croise notamment une secte anti-avortement pour laquelle un séisme relève du châtiment divin. Alors, je trouve que par morceaux, il y a plein de bonnes choses, mais j'ai trouvé ça d'une longueur, avec des moments où j'ai même eu du mal à reconnaître le Franzen des Corrections que j'ai tellement aimé. Jean-Claude ?
Ah oui, tu l'as dit, c'est du lourd, c'est du très très lourd, c'est de l'interminable, c'est confus, c'est touffu, c'est trop descriptif, l'intrigue est totalement sinueuse, c'est du remplissage.
Il y a de bonnes choses, mais c'est toujours comme des scénettes.
C'est très intéressant. Moi, il s'est produit un phénomène physiologique en lisant ce livre. Je me suis endormi 10 fois. Mais 10 fois. Donc
c'est marrant ce que tu dis, je me suis endormie aussi, sauf que contrairement par exemple au cinéma...
Vous étiez ensemble ce soir?
Non, pas ce soir-là.
Tu t'endors pendant un film, c'est pas grave, le film se déroule, tu te réveilles, t'arrives à récupérer l'histoire. Non, c'est pas toujours très grave. Mais là, le problème, c'est que quand tu te réveilles, t'en es toujours à la même page, tu te dis flûte, tu en entends 500 à lire. C'est épouvantable.
Je l'ai repris parce que j'ai une sorte de conscience professionnelle qui aurait dû m'empêcher d'aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout.
Et puis parce que c'est quand même Franzen.
Oui, c'est aussi parce que c'est Franzen, en effet.
Normalement, c'est respect.
10 fois, je me suis endormi. Mais ça devenait fascinant. C'est-à-dire, l'effet que ça avait était fascinant. Alors, ce que je dois dire, c'est que sa théorie du complot, comme ça, qui traîne tout le long du livre, qui nous assène comme si on était obligé de se farcir une encyclopédie scientifique, on s'en tamponne. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire, c'est un livre, mais ennuyeux, comme c'est pas permis. Alors, la seule chose intéressante, c'est que, visiblement, Jonathan Franzen, dès le début, avait une très haute idée de lui-même et qu'il a tenu tout de suite à le faire savoir. Voilà. Mais en tout cas, c'est très, très ennuyeux, c'est très lourd. J'ai bien vu que Arnaud faisait la tête et essayait d'aller chercher la complicité d'Olivia. Mais je suis désolé, les amis, moi j'avais adoré Les Corrections. Ce livre-là, au secours, au secours.
Vous avez aimé, Olivia, tu as aimé ?
Alors moi, ce livre a déclenché chez moi un autre phénomène physiologique. Il y a une expression à la mode en ce moment, c'est « température ressentie ». On dit il fait moins 3, mais en fait il fait moins 15 en température ressentie. Alors ce livre fait 700 pages, mais en lecture ressentie, il en fait 7000. Je dois dire que... Alors moi je me suis dit que c'était la faute de Paul Auster, parce que moi j'avais lu les...
Oui,
Paul Auster,
c'est plus, hein, c'est 1500.
Donc je me suis dit, Paul Auster m'a tué, je suis perdue pour la littérature. Parce qu'en fait, moi, c'est même pas que ça m'ennuie, c'est qu'en fait, je n'ai rien compris. Je crois que je peux le dire. Il y a des tremblements de terre, il y a un héritage pire que Johnny Hallyday.
Ah oui.
Il y a des militants anti-avortement, tu l'as dit. Alors, je me suis accrochée, parce que j'adore Franzen. J'ai l'impression qu'à partir de la page 200, on comprend un petit peu mieux. Quand il tombe amoureux...
Je trouve pas que ça soit incompréhensible, hein. C'est pas ça le vrai problème.
C'est en fait, on a l'impression que c'est un premier roman dans lequel un gars surdoué a voulu tout mettre.
Mais c'est un deuxième.
Déjà, ça, c'est... on peut pas dire que c'est pas, qu'il y a pas des morceaux de bravoure, qu'il y a pas des choses touchantes. Je pense que c'est un livre assez autobiographique et que le jeune homme très mal dans sa peau, c'est lui, donc c'est assez touchant. Mais honnêtement, c'est peut-être pas la peine.
Mais expliquez-moi pourquoi, là encore, depuis un mois, je ne lis que des papiers, mais dithyrambiques sur le jeune Franzen, le premier Franzen. Question quand même.
Je suis d'accord.
Ça en pose même plusieurs.
Parce qu'il est devenu intouchable. Il a la carte. Il est dans le métier. Je sais pas.
Il y a un problème avec notre presse quand même.
Il y a quand même un certain. La fin, par exemple, moi, la fin, quand il faut y arriver.
Après ton sommeil, t'es passé directement à la fin.
Mais je me suis endormie 25 fois parce que je l'ai quand même lu en plusieurs jours. Mais alors, je pensais que c'était vraiment un effet. effet du vieillissement, mais je suis rassurée de voir qu'à la fois il y a du ressenti et du sommeil sous-jacent. Non, la fin est shakespearienne. Enfin, la fin est assez belle, elle est assez forte, mais il ne faut pas la raconter. Mais sinon,
on ferait gagner du temps au lecteur.
Par exemple, on a
ça
droit.
Serait peut-être un service
à certains moments. On se dit, mais il s'est lu des thèses sur les séismes, c'est pas possible, quoi. On s'en fiche complètement.
Non, mais il a travaillé, ça. Hein.
Non, mais il a travaillé, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'on sente le travail, si tu veux, dans ce que tu écris.
Beaucoup de fabricants de pesticides, non?
Il y a des fabricants de pesticides. Non, mais sur les séismes, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Puis alors, ce Louis mal dans sa peau, moi, je trouve que son rapport avec les femmes est absolument improbable. Improbable. On comprend rien. Et d'ailleurs, à la fin, une des deux, Laurine, elle est merveilleuse. Elle lui écrit une lettre. Là aussi, il sait faire. Elle est splendide.
Oui, le personnage est beau.
C'est une belle femme.
Arnaud.
C'est accablant. On est en 1992. C'est intéressant, hein, d'ailleurs. Puisque on est là, on parle d'archéologie, quasiment. Hein, est-ce qu'il y a une date de péremption pour les romans? On a l'impression, quand même, de temps en temps. Ce roman de 92, elle a du mal à passer aujourd'hui, quoi. Même si Franzen a des véritables intuitions, notamment sur l'écologie, parce que ça, c'est quasiment le problème des gaz de schiste, en fait, qui pose. Et là, c'est un peu visionnaire en 1992 de poser le problème du forage tel qu'il se pose avec le gaz de schiste. Il a cette conscience écologique qu'il a eue très tôt, qui est sans doute la chose la plus intéressante chez lui en tant que romancier. Personnellement, je ne voue aucun culte à Franzen, donc je ne vois pas trop.
Écoute, t'as une correction.
Non, les corrections et Freedom, mais le dernier, par exemple, je trouve ça sans intérêt. Et c'est quand même Freedom que j'ai beaucoup aimé.
Sur les oiseaux aussi, très bien.
C'est quand même l'idée à un moment, et on voit bien qu'avec les corrections, d'abord c'est le fantasme du grand roman américain. Là, il est encore sous l'influence, je vais faire un peu le cuiste, mais sous l'influence de David Foster Wallace, qui est le dernier grand écrivain postmoderne américain, et on sent l'influence et que il s'en sort pas avec cette influence et que ce roman est totalement raté. Raté. Pourquoi elle nous a révité aujourd'hui? Ça n'a aucun intérêt. J'imagine que s'il y a des vrais fans de Franzen, ils lisent dans la langue originale et donc ils s'en fichent de cette traduction. Ce roman est mauvais et il est d'autant plus mauvais que en 1992, ce qui se passe dans la littérature française, c'est juste magnifique. C'est l'arrivée de Houellebecq, c'est l'arrivée de Despentes, c'est Guillaume Dustan, c'est Édouard Levé. Et qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec Jonathan Franzen? Mais qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Une fois qu'on aura lu tout ça, déjà, on pourra reparler, mais ça n'a aucun intérêt.
Alors, la soirée n'est pas finie. Pour l'instant, c'est Phénomène naturel que vous allez courir à acheter chez vos libraires. Et c'est aux éditions de L'Olivier. L'archipel du chien, le nouveau roman du prolifique Philippe Claudel. Je dis ça parce qu'il en sort. Il a sorti, je crois, deux l'an passé. Je vois qu'il y en a un deuxième qui paraît également. Un roman sur les migrants, un de plus, qui emprunte plutôt à la fable. Ça se passe sur une île volcanique et imaginaire. L'archipel du chien constitue sans mal en Méditerranée, qui ressemble beaucoup à la Sicile d'ailleurs, puisqu'on y produit de l'huile d'olive et un vin lourd et sucré qui s'appelle le Muroula. Une île où on enterre les morts debout parce que la terre est rare. Et puis un jour, il y a trois cadavres de jeunes Africains qui sont retrouvés échoués sur la plage, cadavres que le maire et une poignée d'Iliens, dont le médecin et le curé, s'empressent de faire disparaître pour ne pas troubler la tranquillité du lieu et de ses habitants. Mais voici que débarque un flic, ou du moins un prétendu flic, ça on va pas dire la vérité, sinon on gâcherait l'intrigue, venu du continent pour enquêter sur ce mystère, auquel vont s'ajouter une odeur de charogne mais pestilentielle et une accusation de crime sexuel porté contre l'instituteur. Tout cela ne nous éloigne pas, au contraire, du drame auquel l'archipel du chien doit faire face, qui est l'afflux de migrants. Donc le choix, encore une fois, est clair de Claudel. C'est pas le roman, c'est la fable. C'est d'une certaine manière aussi le pamphlet satirique. C'est pas si loin que ça du dernier livre dont on avait parlé ici, qui était Inhumaine. Je sais pas si vous en souvenez, qui était un livre assez, comment dire, caustique et violent.
Oui, mais c'était des textes très courts, c'était tout à fait autre chose, un autre projet.
Olivia ?
Eh bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé, je trouve, l'inspiration des premiers livres de Claudel, des âmes grises, parce que c'est une fable, mais c'est aussi...
Les âmes grises, c'était un vrai roman. Hein.
Oui, mais là, je trouve que c'est un vrai thriller, avec une première question, comment faire disparaître trois corps, avec des gars qui se mettent d'accord pour les faire disparaître dans la nature, et puis avec un qui est pas d'accord.
On peut le dire parce que c'est au début.
C'est tout au début.
D'abord dans le frigo. Enfin dans
voilà,
la...
alors ça donne lieu à une scène, je trouve, hallucinante. Ils sont dans la chambre froide, ça sent très fort le poisson. Il y a les trois cadavres et il y a le curé, qui est pas bien malin, qui a la mauvaise idée de vouloir, dans un élan de charité chrétienne qu'on ne peut pas lui reprocher, fermer les yeux d'un des morts. Et évidemment, comme les corps sont congelés, il a le doigt qui reste collé dessus. Et je trouve qu'il le raconte très bien. Je trouve que c'est un livre très sec, il n'y a pas de gras, que ce drame est absolument atroce et qu'après commence un autre drame presque encore pire, qui est comment faire taire l'instituteur qui a décidé de ne pas la fermer sur ces trois corps. Et la manière dont ils vont le faire, qui est une utilisation du mensonge honteuse, je ne vais pas le dire, je trouve que c'est épouvantable. Le décor marche bien, cette espèce de décor imaginaire entre la réalité et la fiction, je trouve que ça sonne très très juste. Je trouve que les personnages qui sont des archétypes sonnent juste aussi. Je trouve que c'est à la fois un thriller, un livre noir à la Simenon, une parabole. C'est Claudel à son meilleur.
Arnaud ?
Je te sens accablé.
Ouais, un peu quand même. Hein. Donc évidemment, on remercie moralement Philippe Claudel d'écrire sur les migrants. Après, littérairement, on peut se poser quelques questions quand même. Je trouve que cette fable, j'ai eu l'impression parfois de lire La Peste réécrite par Don Camillo. Il y a un côté, j'attends tout le temps à ce que quelqu'un surgisse et dise oui, mais Panzani, quoi.
Il y a un peu Don Camillo à Lampedusa.
Ah oui, il y a un peu Don Camillo, quoi. Et le curé avec les abeilles autour de la tête. Bon, là, c'est plutôt plantu, là. Il y a l'instituteur, enfin le docteur, le maire, je vous passe la veuve. Tout ça, quand même, oui, encore une fois, c'est un peu lourdingue. Il y a deux pages sublimes dans ce livre, je trouve, alors pour le coup, qui sont deux pages d'écriture sublimes, mais ça suffit pas non plus pour, à mon avis, hein, quand même. Mais ce sont des descriptions de poissons, justement, où on a l'impression, mais non, mais c'est deux pages absolument magnifiques qui m'ont fait penser à Courbet. Courbet, quand il est en prison pendant la Commune, peint ce qu'il a sous les yeux, et notamment des poissons morts. Il y a des natures mortes de poissons par Courbet. Et j'ai pensé à ça, à ces tableaux, en lisant ces deux pages de Claudel, qui peut être franchement dans ce truc vraiment lourdingue, un peu BD, un peu raté quand même sur le thème des migrants. Faut pas. Et s'il y a ces deux pages sublimes, on voit que là, soudainement, il est pris de l'envie d'écrire, et non pas de raconter, de fabuler, de moraliser, et soudainement il est écrivain. Et moi, le Philippe Claudel que j'aime, et justement celui d'Inhumaine, était précisément
là,
celui
d'un grand écrivain. Il osait aller au-delà de toutes les frontières.
D'une noirceur, je veux dire, c'est...
Mais là, tu trouves ça joyeux ?
Non, c'est pas joyeux, mais c'est raté. C'est pas le même problème.
Patricia ?
Moi, je trouve ça tout à fait réussi. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Olivia, même tout à fait d'accord. Je trouve que, sur justement, ça rappelle les âmes grises, il est aussi dans la veine du rapport de Brodeck, sur la lâcheté des hommes, sur l'espèce de ces hommes qui se constituent comme ça en groupe et qui se méfient les uns des autres, et puis finalement, on en perd son âme. Ça a tout d'une histoire, en fait, qui est totalement inventée, qui est hors du temps, qui est lointaine, et qui est métaphysique, et en fait, c'est complètement inscrit dans un lieu et surtout dans le temps. C'est incarné, effectivement, même si c'est marrant de les archétypes, comme tu disais, c'est-à-dire de les désigner. Moi je trouve qu'à des moments, par exemple, il y a le maire et le docteur qui sont ensemble. C'est génial ce qui se passe entre ces deux hommes. On sait même pas leur nom. C'est effectivement un archétype, mais
ils sont appelés le docteur, le curé.
Voilà. Je trouve que ça pourrait être théâtral, grandiloquent, ça l'est absolument pas. Et quant à l'histoire de l'instituteur, je trouve que sur le plan du ressort romanesque, ça, c'est très très bien fichu. Oui, ça arrive très bien. Ça arrive légèrement malgré la lourdeur de l'histoire. C'est une belle mécanique.
Moi, ce qu'il faut expliquer pour comprendre vraiment le roman, c'est qu'il y a un grand projet de création de termes dans cette île qui n'est pas très très riche, hein, et que tout doit être fait pour permettre que ces termes naissent. Et ne soient pas empêchés par des problèmes...
C'est une sorte de center park, non, comme on fait maintenant.
Oh, exactement, on est capable... exactement.
Et évidemment, le maire se dit chic, 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 ça va beaucoup rapporter à ma commune.
Jean-Claude.
C'est un livre superbe. C'est dans la veine des grands romans de Claudel. C'est en effet Les âmes grises, c'est le rapport de Brodeck. C'est à cette hauteur-là. Mais vraiment. Et c'est un livre envoûtant, mystérieux, fort. Puisque vous étiez sur les jeux des références, c'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser à Ionesco, c'est-à-dire Amédée ou comment s'en débarrasser, comment on se débarrasse de ces cadavres. Ça m'a fait penser au réviseur de Gogol, c'est-à-dire que le faux policier, c'est le réviseur de Gogol.
Mais pourquoi tu dis que c'est un faux policier ?
Ah oui. Ah oui, en effet. Oui. Ah. Cela dit.
Ah non, mais ça change tout.
Non, cela dit, comme j'ai parlé du réviseur, chacun aura traduit. Ça m'a fait penser.
Pourrait être policier.
Il pourrait être policier et il l'est, comme le réviseur et le réviseur. Voilà. Ça m'a fait penser à la chute de Camus. C'est-à-dire l'intérêt de cette parabole, c'est ça. Et la morale, la vision satellitaire. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens? C'est l'intérêt de Claudel, c'est qu'il renverse cette perspective d'écrire sur les migrants, il renvoie à la responsabilité collective et à la conscience de chacun. Tout ce thriller joue sur qu'est-ce qui se passe dans la conscience de chacun. Comment chacun se débrouille avec des crimes, des abjections, qui se passe avec l'instituteur.
Tout avec un danger, c'est que ces personnages soient toujours un peu caricaturaux.
Tu as raison parce qu'il n'y a pas de morale.
Ils sont archétypiques. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le crime est dévoilé par une vision satellitaire. C'est-à-dire qu'il y a un satellite qui montre ce qui s'est passé. C'est l'œil de Dieu. C'est l'œil de Dieu. Et l'intérêt chez Claudel, c'est d'avoir. Puisqu'il voit tout.
Satellite envoyé par Dieu.
Mais c'est une métaphore. C'est une métaphore de l'œil de Dieu, puisqu'il voit tout. C'est ça l'idée. Non, mais l'intérêt, c'est qu'il renverse.
Une nouvelle technologie à la croix, c'est quelque chose.
Il renverse le mythe selon lequel on a toujours dit que les sociétés se constituaient sur un crime. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le crime va détruire cette société, va ruiner l'île. Et va même faire que cette île va finir par devenir ce qu'elle doit devenir.
Voilà. Non, c'est après ça. Non, mais t'es incroyable.
Non, je n'ai rien dit.
T'es en train de
T'es
en train de tout divulgâcher.
Non, c'est
tout.
Pas vrai.
Non.
Pas divulgâcher. Ça n'existe pas, divulgâcher.
Oh, merci. L'archipel du
chien. Je croyais que t'allais me dire les 5 lettres.
Bon, en tout cas, c'est un très grand livre.
De Philippe Claudel, apparu aux éditions Stock. Allez, du chien, on passe aux vaches avec Sainte-Croix. Les vaches, c'est dans l'Écosse. Et c'est un polar déjanté chez Fayard. De Vincent Ravalec, qui a fait des débuts fracassants, c'était en 1994, avec Cantique de la racaille, prix de Flore, qui reste pour moi d'ailleurs son meilleur. Après, il s'est, c'est un euphémisme, un peu égaré. Et là, on le retrouve au fin fond de l'Auvergne, à Sainte-Croix-les-Vaches. Je le cite, un petit village d'Astérix, mais sans Romains autour. Un lieu improbable, sans médecin, sans école, sans gendarmerie, où les habitants, tous un peu cousins des tontons flingueurs, ont mis en place, sous la houlette encore d'un maire, sauf que lui est richissime, Thomas, il se déplace en hélico, ils ont mis en place un système D très efficace, qui est une sorte de mafia champêtre, à base d'escroqueries aux subventions, de cultures de cannabis bio, de bases arrières de braqueurs, jusqu'au jour où débarque Sheila, pas la chanteuse, non, c'est la députée du mouvement En Avant, qui veut désenclaver Sainte-Croix-les-Vaches et en faire un laboratoire rural de permaculture sociale. Moi, j'ai eu le sentiment, alors je crois que c'est un premier volume, il y en aura d'autres, j'ai eu le sentiment de dire quelque chose entre Vialat et Michel Audiard, mes versions, Ravalec, Patricia.
Alors, à certains moments, moi, ça m'a rappelé, c'est un côté « L'amour est dans le pré », quand Sheila arrive...
Tu parles de la série télé ?
Oui, c'est une série.
Je regarde pas.
Fiction, c'est une réalité. Oui. Tu sais, c'est quand
tu regardes beaucoup.
Je regarde à chaque fois. Je suis une accro. Non, mais je trouve ça assez intéressant.
T'es accro.
Et alors, cette Sheila qui débarque là dans un monde mais totalement qui lui est totalement inconnu, qu'elle vient voir là avec un œil d'entomologiste, on dirait un petit peu que Karine Le Marchand. C'est assez rigolo quand Sheila découvre l'Écosse. Ce maire, il est assez rigolo. Il a pas seulement un hélicoptère. Il essaye de lire le rivage des Sirtes aussi, mais il n'a pas dépassé le début. Bon, non, c'est léger, c'est marrant, mais il faut le prendre pour ce que c'est. Et d'ailleurs, je pense que Vincent Ravalec est le meilleur critique de ses propres bouquins, puisqu'il dit lui-même, puisqu'il en a écrit, je sais pas, une trentaine, enfin, il est particulièrement prolifique, il dit qu'il faut voir la totalité de son œuvre et pas chaque livre en particulier. C'est vrai qu'il est... Chacun n'est pas particulièrement abouti, sauf peut-être Cantique de la racaille. C'est écrit vite, c'est écrit avec une peut-être trop vite. Mais il y a une pulsation, il y a un tempo pour dire les choses. Il y a un œil sur la société. Je trouve que c'est un livre sans prétention, ça va pas très loin. Mais moi, je trouve que c'est un joli divertissement. Moi, ça m'a amusé.
Olivia,
ça se lit vite en plus.
Olivia, je me suis pas endormie en lisant. La nature, l'Écosse, la campagne,
les vaches.
Ça
commençait comme petit paysan, et alors là, c'était pas du tout pour moi.
Non, petit paysan, attends, c'est un très beau film.
C'est un film extraordinaire. C'est pas un beau film.
Il y a un truc bizarre avec Ravalec quand même. Qui a écrit Cantique de la racaille? Il est formidable. Qui a écrit après le livre le plus drôle du XXe siècle.
Hépatite,
qui s'appelle Hépatite L'Auteur.
C, ah non, ah oui, L'Auteur.
Vous n'avez pas lu ça?
Hépatite C aussi, c'était marrant.
C'est pas le plus drôle du XXe siècle, Olivia.
Très drôle.
D'abord, il y a une sérieuse compète, quand même.
Oui, il était très drôle. Et puis, il avait fait des nouvelles, quand même, aux dilettantes. Et après, il y a quand même un mystère avec ce gars qui a fait que des livres nuls, quand même. Faut bien
non, mais il fait plein de choses. Il fait de la BD, il écrit des scénarios.
Il a écrit un très beau livre sur l'hépatite C.
L'hépatite C,
qui n'est pas un roman, mais qui est un livre admirable.
Des romans où on comprenait rien. Là, un petit peu joie de le retrouver. Il m'avait fait une dédicace très sympathique. Il m'avait écrit « Comment mieux démarrer l'année qu'en compagnie d'un si épatant roman ?» Et ça commence comme un épatant roman, un peu Fantasia chez les Plouks.
Encore une fois, tu n'aimes pas la nature. Il faut le préciser, mais là, c'est important.
Je déteste la nature, je n'aime que le béton. Non, c'est pas vrai. Mais comment tu dis si avec tellement d'allure ? Non, je trouvais que c'était le pitch est rigolo. Voilà. Et comme tu dis, ça ressemble à du Audiard. Il y a même des citations directement empruntées à Audiard, me semble-t-il, parce que quand il dit « à croire que les ennuis volaient en escadrille
oui. »,
si mon souvenir est bon,
absolument.
Les cons, c'est comme les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est oublié, je crois, dans je ne sais plus quel film. Après, malheureusement, ça décolle jamais vraiment.
Et c'est un premier tome, attention.
Bon, déjà. Alors est-ce que c'est nécessaire d'en faire d'autres ? Parce qu'il y a l'expression « comment faire du neuf avec du vieux ?» Là, on a l'impression qu'il fait un peu du vieux avec du neuf. Parce que l'intrigue est neuve, l'intrigue était bonne, c'était une bonne idée, cette Sheila, En Marche, tout ça. Mais
En avant.
Oui, bon, En avant marche, ok. Bon, en plus, c'est pas un livre où les femmes sont extrêmement à l'honneur, on peut le dire, hein, je crois que... Bon, alors, je ne demande pas que tous les livres soient féministes.
C'est un village où ils n'ont pas de femmes, alors
évidemment,
il y en a
deux. Bah oui, le pauvre Médée, par exemple, le pauvre Médée, il n'a jamais connu de femmes.
Ils sont un peu en manque, c'est vrai.
Elles sont les maîtresses de sénateurs mariés, elles sont d'Inde, mais elles pourraient être dans les basses-cours de toutes ces fermes. Bon, ça m'a un peu énervé quand même, cette image des femmes. Bon.
C'est toi qui l'as dit. Hein.
Bah, c'est vrai. Je vous dis, ça en avant et pas de cerveau. Bon, c'est amusant, sans plus.
Vous écrivez directement à Olivia de Lamberturie, à elle. Arnaud ?
Pour le lire, j'ai allumé des bougies un peu partout chez moi, parce qu'il fallait quand même que j'imagine une espèce de blackout, de grande panne d'électricité qui fasse que, pour contenter ma soif inextinguible de séries télévisées, je sois obligé, finalement, de rapatrier sur un livre. Voilà, parce qu'en fait, la télé marche plus, l'ordinateur marche plus. Je peux pas regarder la saison 3 de Marseille, qui est quand même, à mon avis, ce qu'on peut voir de mieux en ce moment. C'est-à-dire que c'est vraiment la série télévisée situationniste par excellence. C'est-à-dire, le faux est un moment du vrai, c'est juste magnifique. Marseille, franchement, j'adore. Le Bureau des légendes, j'adore. Et donc, bon, voilà,
si on dérange,
quelqu'un
nous, dit, hein,
quelqu'un nous propose un succès d'année de série télévisée. Pourquoi pas ? Mais enfin, ce côté Netflix de la littérature ne peut pas exactement me contenter.
Jean-Claude ?
Alors, c'est un livre très, très marrant, mais on se trompe si on croit que c'est un roman. C'est un documentaire sur le monde rural.
Oh.
Mais extrêmement juste. La course subvention.
Est-ce qu'il trouve des trésors tous?
Mais précisément.
Des hélicoptères cachés dans des meules de foin.
Les paysans aiment la vie de ce gars-là. J'aimerais pour eux.
Ce qui est en train de m'amuser, c'est que vous prenez non seulement au premier degré, mais vous êtes en plus en train d'argumenter. Enfin, c'est pas possible.
Est-ce qu'ils ont un rebouteux qui leur fait de la potion magique?
Ce qui est intéressant chez Ravalek,
avec des tampons usagés. Non.
Ce qui est intéressant chez Ravalek, c'est qu'il retourne.
Ah, s'il vous plaît, arrêtez maintenant. Vous êtes écouté quand même le dimanche soir. Jean-Claude.
Ce qui est intéressant chez Ravalek, c'est qu'il retourne les cartes du misérabilisme qui s'attachent au monde rural. C'est-à-dire que là, par exemple, un des nœuds de son livre rigolo, c'est l'histoire de la course aux subventions. Mais c'est exactement ce que font plein de villages qui courent après les subventions, qui font semblant de monter des trucs qui correspondent pas du tout aux besoins des villages et qui ensuite se distribuent les subventions par des appels d'offres qui sont un petit peu... voilà. Donc c'est un vrai documentaire rural sur l'histoire de la députée qui vient. Mais c'est pareil. On se marre, on rigole beaucoup, on croit que c'est de la parodie et tout ça. Oui, eh ben non, si vous le lisez de façon sérieuse, d'abord, l'effet rigolo en est décuplé, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Et vivement la suite.
Sainte-Croix-les-Vaches, c'est chez Fayard et c'est signé Vincent Ravalek. Et on termine avec La Punition chez Gallimard. Tahar Ben Jelloun, dont je rappelle qu'il est né à Fès au Maroc, a attendu donc d'avoir 70 ans pour raconter. Alors il le fait, il faut le préciser, au présent de l'indicatif. le calvaire qu'il a vécu à 18 ans, 19 mois de détention sous le règne du roi Hassan II, et aussi la poigne du général Oufkir, pour avoir manifesté pacifiquement contre le gouvernement. C'était en mars 1965, c'était bien avant Franzen. Hein. Devenu le matricule 10366, lui et 93 autres donc étudiants ont été enfermés dans des casernes qui ressemblaient, à en croire Benjeloun, à des camps de redressement chinois, où ils ont subi des vexations, des humiliations, des mauvais traitements, et ont été contraints d'effectuer des manœuvres militaires dangereuses, sous les prétextes les plus absurdes. Et c'est là, dit Tahar Benjeloun, qu'il a eu conscience de devenir, ou qu'il deviendrait un jour écrivain, Jean-Claude.
Je ne sais pas comment vont réagir mes amis, là, mais moi j'avais joué le rôle du méchant. C'est-à-dire que c'est un livre qui est moralement inattaquable. Bien sûr, ce qui lui est arrivé est absolument terrible, mais c'est un livre épouvantable, quoi. C'est un livre tellement mal écrit, quoi. C'est une rédaction de quatrième, c'est un livre magnétophone à peine dicté. C'est un académicien Goncourt, quand même. Je veux dire, c'est pas possible d'écrire ça comme ça. Et on se pose même la question, à nouveau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui relit chez Gallimard? C'est-à-dire qu'il y a des négligences de style, il y a même des fautes qui ont été laissées. Donc je pense qu'en effet, chez Gallimard, ils se sont désintéressés du truc et ils ont même pas relu en se disant, après tout, c'est un académicien Goncourt, il vaut mieux qu'on l'ait avec nous que contre nous. Donc ils ont laissé courir le truc. C'est-à-dire, il y a une pauvreté de style qui est accablante. Alors, moi, je viens toujours avec des éléments de preuve, parce qu'après tout, je pourrais essayer, ça serait gratuit. Donc par exemple, Tahar Benjeloun parle tout le temps des gens. Voilà. Les gens. On sait à quoi ça renvoie, mais toujours les gens. Alors, par exemple, il y a une scène où il se retrouve comprimé dans un camion, où il est vraiment comprimé au milieu de gens très misérables et tout ça. Et il écrit, cette promiscuité me pose un problème, je ne suis pas fait pour vivre avec les gens. Cette phrase, elle vous dit rien. C'est Jean Dujardin, OSS 117. Cette promiscuité me pose un problème, je ne suis pas fait pour vivre avec les gens, c'est Dujardin dans OSS 117. Il s'arrête pour prendre un café un moment avec un de ses copains qui s'appelle Zaki. D'accord? Zaki. Et il écrit, c'est Zaki qui paie. Alors, l'information est évidemment capitale. Enfin, c'est très important de savoir que c'est Zaki qui a payé le café, mais c'est Zaki qui paie. Je veux dire, excusez-moi, je n'ai pris que ces deux exemples, mais c'est comme ça à longueur de page. Alors, je doute qu'il ait voulu faire un livre marrant. Je pense qu'en effet, c'est très très grave. Alors, ce qu'il nous dit à la fin, il nous explique qu'il a mis 50 ans pour trouver les mots. Eh bien, moi, je pense que 50 ans pour Tahar Benjeloun, c'est pas assez. Voilà.
Arnaud.
Même 50 ans après, malgré tout, ça reste un livre assez courageux. Il, quand même, à un moment, il insulte le roi. Alors certes, c'est pas celui qui est actuellement sur le trône.
Ah, ça, t'as remarqué, ça, oui.
Oui, même. Oui. Non, c'est pas l'un, c'est son père, hein, il insulte. Mais enfin, le crime de lèse-majesté au Maroc, ça coûte cher. Sachant ce qui se passe actuellement au Maroc, notamment la répression dans le Rif, dont personne ne parle. Cela dit, il y a eu un très beau reportage sur France Inter sur le sujet.
Non, on n'en parle pas au Maroc.
Peut imaginer que la situation que raconte Tahar Benjeloun, c'est-à-dire une véritable zone de non-droit, une caserne où la démocratie, le droit, n'existe plus. On traite les gens comme pire que des chiens, on leur donne de la nourriture avariée, on leur fait faire des choses dangereuses. Enfin, on est complètement dans le non-droit. Raconter ça dans la situation actuelle du Maroc, je trouve que c'est un geste vraiment
courageux. Ça méritait pas un grand livre, Arnaud? Ça méritait pas un grand livre, ça?
Je sais pas ce que ça veut dire, un grand livre. Il y a une chose qui est sûre, et c'est, en même temps, j'ai trouvé l'honnêteté de Tahar Benjeloun de raconter cette anecdote. Il demande un livre. Demande un livre parce qu'il s'ennuie. Il s'ennuie à périr. Et il dit, offrez-moi à sa famille le plus gros livre que vous puissiez trouver parce qu'il n'en voit qu'un seul livre. Et qu'est-ce qu'ils amènent? Ulysse de Joyce. Alors, c'est évident, quand on lit Tahar Benjeloun, que ça ne l'a pas influencé littérairement. C'est clair. C'est clair. C'est pas un Joycien du tout, du tout. Mais, encore une fois, c'est un livre de témoignage, et quand on est marocain, témoigner de cette manière-là, encore une fois, c'est courageux.
Pas de cette manière-là, justement. Non. Si. Pas de cette manière-là.
Si. Olivia.
La littérature n'a plus rien à voir.
Ça pose un problème, ce livre, parce que quand même, ce qui est raconté est atroce. Moi, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé dans ce camp-là, et j'étais quand même assez choquée. C'est le règne de l'absurdité, et je trouve qu'il raconte assez bien ce qu'est la peur et comment elle vous fait disjoncter. Il y a une scène, quand il arrive, il est dans ce qu'on appelle une tata, je crois, c'est une prison ronde, un bâtiment rond, et tout d'un coup, il devient fou, il voit, il a l'impression que les meubles sont au plafond, et que les hommes ont des têtes de rats, il est terrifié par les rats. Je trouve qu'il y a quand même une force, et quelque chose qui est dit, qui est fort. Après, effectivement, c'est tellement mal écrit, que moi, je me suis demandé si c'était pas fait exprès. C'est-à-dire que...
Je crois pas, non.
Écoute, aujourd'hui, il a 70 ans, il a eu le prix Goncourt, il est juré Goncourt, et je me suis demandé s'il n'avait pas volontairement laissé tout ça de côté pour écrire le récit d'un gamin de 20 ans qui est maladroit, qui n'est pas écrivain, qui n'a pas fait d'études, parce que...
50 ans après...
Interroge.
Mais 50 ans après...
Mais 50 ans après, parce qu'on se remet dans
le recul de ce que
t'as
vécu.
Il y a aussi un autre truc très fort dans ce livre, c'est que quand tu le lis, tu as l'impression que l'écrivain, en train de l'écrire, ne sait pas comment ça va finir. Je trouve qu'il y a un vrai... Non, enfin, moi, je sais pas. Ça m'a étonné.
Bah, c'est écrit, effectivement. C'est écrit d'une manière très behavioriste.
On est au présent.
Oui, mais je trouve que ce présent, il fonctionne. Et que moi, quand ils font sortir ces gars de 20 ans qui ont rien fait, qui ont juste manifesté, surtout qu'il a pas du tout de conscience politique à l'époque.
Ah, aucune. Il a été pris par hasard dans la rafle.
À 4 heures du matin, ils sont en sandales et en culottes courtes. Il fait 0 degré, qu'ils doivent rester 4 heures debout dans la cour.
C'est Full Metal Jacket, c'est la première partie de Full Metal
Jacket. Je m'empêcher d'être saisi.
Stylistiquement, ça tient pas. Enfin.
Oui, mais si c'est raté, mais c'est justement dans cette volonté qu'il a eu de se remettre dans la peau du jeune homme qui vit aujourd'hui. C'est comme si c'est presque comme si ça avait été un journal qu'il aurait retrouvé, qu'il aurait écrit à l'époque.
Je me suis demandé
avec toutes les maladresses de l'époque, mais on ne sait pas. Si ça peut, avec des préoccupations comme probablement les jeunes, beaucoup de jeunes qui ont été déportés l'ont dit, ceux qui ont pu le raconter après, avec des préoccupations. Il y a effectivement, il n'y a pas de lendemain, on n'y pense pas, mais il n'y a pas beaucoup de passé. Bien sûr, il pense à ses parents, il pense à son ex-fiancée, etc., avec un peu de douleur. Mais au fond, les préoccupations sont immédiates. C'est de manger, c'est de ne pas crever de froid, c'est les cauchemars qu'il fait. Tu as raison, il y a beaucoup plus de peur que d'indignation dans ce livre. L'indignation, c'est une des conséquences. Elle a dû venir après. Quand il voit un type enterré vivant avec juste la tête qui dépasse en plein soleil et qu'il sait très bien que ce camarade va mourir. Et en même temps, c'est un récit très solitaire. C'est-à-dire qu'au fond, c'était un groupe, ces jeunes gens. Mais curieusement, chacun est face à son destin. Il n'y a pas d'interconnexion tellement. En tout cas, s'il y en a une, il ne la raconte pas.
Il le dit, cette expérience n'a créé aucun lien
entre nous. Aucun lien, voilà. Et en fait, à la fin, quand tu sais, enfin, il a vraiment échappé pendant, mais à la fin, s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas voulu y retourner, sans raconter tout, et s'il n'était pas venu en France, il serait probablement mort. Enfin, c'est... Donc je trouve que là, tu es quand même sévère quand tu dis que c'est pas possible qu'il ait pas une cause à ça. C'est pas parce qu'il sait pas écrire.
C'est extraordinaire quand je vous écoute, parce que vous avez raison sur le fond. C'est moralement inattaquable. Pourquoi il l'écrit si mal ?
La punition, c'est chez Gallimard et c'est le livre de Tahar Ben Jelloun. Un conseil pour terminer cette émission, ça peut être un poche, ça peut être un livre normal. Jean-Claude.
Alors, quelque chose qui n'a évidemment rien à voir, je vous le dis tout de suite, par rapport à la punition, ça s'appelle le syndrome de la chouquette ou la tyrannie.
De la chouquette ?
De la chouquette. La chouquette.
C'est ce qu'on mange ou...
Oui, c'est ce qu'on mange, le petit truc qu'on mange dans les bureaux le matin. Ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau. C'est un livre absolument poilant de Nicolas Santolaria, qui est en fait un recueil de chroniques qu'il écrit pour Le Monde, qui est publié chez Anna Moza. C'est hyper poilant. Alors là, pour le coup, c'est très très bien écrit. Il faut l'offrir à Ben Jelloun.
Mais c'est documenté ou c'est juste
Ah oui,
une...
Non, c'est... En fait, il fait les mythologies de la vie de bureau et c'est vraiment...
Et quoi, on mange trop de sucre dans les bureaux?
Non, c'est mais, par exemple la guerre entre les pros et les anticlimatisations, sur qu'est-ce qu'on fait quand ton chef veut devenir ton ami sur un réseau social, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, est-ce que t'es obligé de rire aux blagues du chef et puis comment tu fais pour rire aux blagues du chef.
Oui, normalement, il faut...
L'exaspération.
Normalement, il faut.
Qu'est-ce que t'es drôle, Jérôme.
L'exaspération de tous ces gens qui, quand ils vous disent entre guillemets, le font avec les doigts. Les récits.
Ah, ça, oui, ça, j'ai horreur de ça.
Voilà, ça, voilà. Les récits c'était de vacances.
Enfin, les récits.
C'est Umberto Eco qui le faisait, les premiers. À la télévision, et il était magnifique. Après,
l'enfer à la rentrée des récits de vacances des confrères. Le confrère, le collègue qui parle hyper fort et qui a un avis sur tout. Enfin, c'est comme ça, voilà. Donc, c'est vraiment sur la
tyrannie. Et c'est chez qui?
C'est chez Anna Moza. Et c'est vraiment, alors là, très très bien écrit, de Nicolas Santolaria.
Le conseil champêtre de Patricia.
C'est chez Artaud, Philippe Claudel. Ce sont des entretiens avec Fabrice Lardreau, le lieu essentiel. Et le lieu essentiel, c'est la montagne. On apprend que Philippe Claudel, mais t'as l'air agacé que je parle de ça.
Pas du tout,
c'est
non, mais je suis étonné qu'on reparle encore de Claudel.
Oui, parce qu'il aurait voulu, en fait, devenir guide de montagne.
Ah
de,
bon?
Oui, absolument. Et il dit qu'entre la montagne et lui, il y a une adéquation. Mais je vous assure, c'est un très beau livre, parce que tu n'aimes pas la montagne. Quand on aime la montagne, je te jure que tu adoreras ce livre. Il y a l'envie de grimper chez lui, mais il y a aussi.
Ah, ça, c'est intéressant, parce
plaisir.
Qu'à la montagne, il vaut mieux avoir envie de grimper.
Eh bien, justement,
hein.
Non. Justement, non.
On tu peut pourrais aussi... rire quand je fais ce genre de blague.
Il y a aussi le plaisir de regarder la montagne, de la contempler.
Merci. Et c'est chez
Artaud.
Artaud.
Cache ton enthousiasme.
Mon conseil, ça s'appelle L'Express de Bénarès. C'est chez Fayard. C'est une enquête formidable qu'a menée Frédéric Vitou sur les traces d'un fantôme, d'un poète, qui est mort à 32 ans, qui s'appelait Henri Levet, 1874-1906, dont on ne connaît qu'une poignée de sonnets et de cartes postales. C'était le livre Larbeau était fou de ce poète, et qui a eu une double vie. Canaille aux cheveux verts à Montmartre et vice-consul aux Philippines avant de mourir, donc très jeune, à Menton, d'une tuberculose. Et l'enquête que mène Vitou pour retrouver ce Levet est très personnelle, parfois très émouvante et en tout cas très, très édifiante. C'est chez Fayard. Le conseil d'Olivia.
Un livre américain, My Absolute Darling, chez Gallmeister, d'un primo-romancier, Gabriel Tallent, qui a 30 ans. Et c'est un très gros livre, assez terrifiant, qui compte les relations terribles d'une adolescente avec son père, hein, qui l'abuse, qui la viole. Hein. Mais le sujet n'est pas le viol, le sujet c'est la gamine et l'emprise. Qu'est-ce que c'est qu'une emprise? Et ce sont évidemment des sujets dont on parle beaucoup en ce moment avec la libération de la parole. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnellement bien raconté. Et c'est l'histoire de cette fille pour sauver sa peau, pour sauver ce qu'elle peut d'elle. Il y a une nature absolument formidable, ça se passe en Californie du Nord, et c'est vraiment un livre saisissant et très très beau.
Et chez
Gallmeister.
Gallmeister. Le conseil pour finir d'Arnaud?
Un premier roman, et certainement la plus belle entrée en littérature que j'ai vue depuis très très longtemps. Ça s'appelle La classe verte de Benjamin Pitchal, c'est chez Gallimard. Et en fait, le livre commence quand le narrateur découvre son vrai grand-père, que il se trouve, je connaissais pas personnellement, mais son vrai grand-père, c'est Alain Gerban, qui a été éditeur après-guerre.
C'est un peu légendaire dans le milieu de l'édition.
De Benjamin Perret, de Max Ernst, etc., qui était poète lui-même, qui était aussi explorateur, hein, qui est un personnage tout à fait étonnant et qui a écrit un des plus beaux livres que je possède dans ma bibliothèque, qui est le Dictionnaire des symboles dans la collection Bouquins, qui est un livre absolument merveilleux. Et donc, il découvre son grand-père. En même temps, lui, il devient dealer de drogue. Il fait des go-faces entre Amsterdam et Paris. Il va finir en prison où il va croiser Fofana du gang des barbares. Et oui. Et donc c'est extraordinaire parce que il va être sauvé, si on veut, par l'idée de la poésie que lui transmet son grand-père. Et c'est vraiment un grand roman sur qu'est-ce qu'être poète, qu'est-ce que la poésie aujourd'hui dans ce monde.
Il est tout jeune, je crois, cet auteur.
Oui, il a une trentaine d'années, enfin pas. Voilà. Et lui, il place en tant que dealer, il place son fric dans des éditions anciennes de poètes, et il va devenir d'ailleurs libraire d'anciens en sortant de prison. Je pense que c'est très autobiographique et surtout, c'est écrit dans une langue avec une idée majestueuse, là, pour le coup, de ce que peut être la littérature.
Chez Gallimard, et le titre, tu le rappelles ?
La classe verte, un titre magnifique, rimbaldien au possible. Mais franchement, voilà, un très, très grand premier roman.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Jean-Claude Raspienjas et Arnaud Vivian, ainsi que les lycéens de Toulouse, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Sacha Guitry à la technique, et je les remercie, Manuel Couturier, Tar Bouklifa et Stéphane Touvenin. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, ce sera le jeudi 22 mars. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au livre. Dans une semaine, on parle de théâtre. Je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.